Étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jauger. Chapitre 4, première partie de 2. Opinion fausse sur les voies de Jeanne d'Arc. Opinion vraie avec les preuves qui l'appuient. Les faits contenus dans la vie de Jeanne d'Arc dépassent le niveau ordinaire des faits humains. Tout le monde en convient. Mais à quel principe, à quelle force surhumaine doit-on les attribuer? Ont-ils leur source dans les facultés de l'homme portées à leur plus haute puissance, ou bien dans l'intervention extranaturelle, disons le mot, miraculeuse d'êtres supérieurs? Il en est qui ont voulu tout expliquer par une intrigue de cour, dont Jeanne n'eût été que l'instrument. D'autres, en assez grand nombre, ont cru sage de ne pas se prononcer. Ceux qui, au XVIIIe siècle, se piquaient de philosophie, et la plupart des auteurs modernes attribuent ces faits à la surexcitation des forces de l'âme, que les uns ont appelé hallucination, et que les autres, plus respectueux, ont décoré du nom d'extase. Enfin, un très petit nombre ont reconnu d'une manière plus ou moins explicite une intervention miraculeuse et surnaturelle dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Je ne m'arrêterai pas longtemps à réfuter la première opinion. Elle ne s'appuie sur aucun fait et ne supporte pas l'examen. Une première invraisemblance qui suffit à elle seule pour la renverser, c'est que, dans ce sentiment, il faut supposer que Jeanne a menti pendant toute sa vie, qu'elle a menti sur le bûcher, et cela pour un roi qui l'abandonnait lâchement. Il faut supposer que cette sainte, si pieuse, si humble, si désintéressée, n'a été qu'une vile hypocrite. Soutenir une telle opinion, c'est se montrer plus inique que les juges qui ont condamné Jeanne au feu. En outre, si elle était l'instrument du parti des Français, pourquoi Baudricourt refuse-t-il de la recevoir? Pourquoi Charles se montre-t-il si indécis quand il s'agit de l'admettre en sa présence? Pourquoi tous ces examens à Chinon et à Poitiers? Pourquoi ces entraves continuelles mises à tous les projets de Jeanne par le roi et son conseil? Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page, portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. Ce fait, autrefois peu connu, a été mis en évidence par plusieurs auteurs de notre temps. Retour au texte de l'abbé Jauger. Pourquoi ces entraves continuelles mises à tous les projets de Jeanne par le roi et son conseil? Enfin, cette supposition, évidemment fausse, a encore le tort de ne rien expliquer, ni les prédictions de Jeanne, ni sa merveilleuse intuition dans la conduite de la guerre, ni ses succès. Quant aux auteurs qui n'ont pas osé se prononcer, leur réserve, excusable peut-être à l'époque où ils ont écrit, ne se comprendrait plus maintenant. Les découvertes récentes et les dernières publications ont jeté sur ce point d'histoire une telle lumière que le doute ne semble plus permis. Écartant donc ces deux premières opinions, je m'attacherai à démontrer la vérité de la troisième, en réfutant celle qui attribue à l'exaltation des facultés de l'âme les faits merveilleux qu'on admire dans la vie de Jeanne d'Arc. Pour ne rien confondre, je vais exposer cette dernière opinion avec chacune de ses nuances. On peut ramener à trois les explications données par les auteurs qui excluent de la vie de Jeanne toute intervention extra-naturelle d'êtres supérieurs et qui voit dans la nature de l'homme l'origine des phénomènes constatés dans son histoire. Monsieur l'abbé l'Anglais Dufresnois me paraît avoir assez bien exposé l'explication reçue parmi les philosophes du siècle dernier. Voici ses paroles. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Histoire de Jeanne d'Arc, vierge héroïne et martyr d'État. Paris, 1753. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Monsieur l'abbé Langlais Dufresnois me paraît avoir assez bien exposé l'explication reçue parmi les philosophes du siècle dernier. Voici ses paroles. De croire que cette fille ait eu des visions, des apparitions, des révélations de saints et de saintes, je n'en crois rien. J'abandonne cette pieuse créance à des personnes d'un esprit moins rétif que le mien. Mais à ces apparitions, je substitue une persuasion intérieure, une méditation réfléchie, qui frappe, qui anime, qui agite fortement l'imagination. Et ce sont les effets de cette dernière faculté qui, souvent, nous représente comme réels des objets qui ne sont que de simples nuages que nous nous formons en nous-mêmes. On sait que la chose est commune en quelques maladies particulières où l'homme infirme se représente tout ce qui n'est pas et qu'il croit néanmoins aussi réel que s'il existait effectivement. Soyez persuadés qu'en matière de piété, la chose se passe de même. Une âme appliquée, une âme vivement affectée d'un objet, croit voir tout ce qui a rapport à cet objet. Elle le voit cependant, mais dans son imagination. Elle peut dire sans péché qu'elle a vu, qu'elle a ouï, ce que d'autres n'ont ni vu ni entendu. Elle va même plus loin. Elle cherche à persuader les autres des vérités dont son âme est saisie. L'activité de son imagination se communique aisément. Fin de la citation. L'auteur montre ensuite, par l'exemple d'Alexandre, de Henri IV, de Condé, comment cet enthousiasme peut facilement se communiquer. Et il ajoute que dans la pucelle, cette facile communication de son courage est une suite de la direction particulière et marquée de la providence qui veille sur les royaumes. Une seconde explication nous est fournie par M. Albert Réville. Selon cet écrivain, Jeanne d'Arc se rapprocherait des prophétesses de la vieille Gaule et de la Germanie. Dans son opinion, ouvrez les guillemets, le prophétisme est un phénomène de la vie de sentiment. C'est une des formes naturelles du développement primitif de l'esprit humain. Fin de la citation. Qui possède, dit Cicéron, une certaine présagition. Presagitio quaedam. Ouvrez les guillemets. Ceux qui, doués de facultés esthétiques et intuitives très délicates, firent preuve d'une espèce de seconde vue ou prévoyance sagace, passèrent aisément et se prirent eux-mêmes de très bonne foi pour des hommes recevant des communications spéciales de la divinité. La médecine psychologique d'aujourd'hui étudie très sérieusement les faits nombreux qui prouvent que certaines surexcitations nerveuses, dont les causes peuvent être bien diverses, sont souvent accompagnées d'un déploiement remarquable de la sensibilité, de la mémoire, de la lucidité des idées et en particulier de la prévoyance. Fin de la citation. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1. Qui dit ce qui suit. Revue des deux mondes, 15 juin 1867, les prophètes d'Israël. Retour au texte de l'abbé Jaugé. En résumé, dans l'opinion de M. Albert Réville, la puissance de prévoir l'avenir est le résultat naturel du développement de l'esprit humain. Et c'est par ce principe qu'on doit expliquer tous les phénomènes prophétiques, et en particulier Jeanne d'Arc. D'après M. Henri Martin, dans son histoire de Jeanne d'Arc, la vie de cette héroïne rentrerait dans cet ordre exceptionnel de faits moraux et physiques qui semble déroger aux lois ordinaires de la nature, entre guillemets. Jeanne est une extatique, mais pour cet auteur, ouvrez les guillemets, l'extase et le somnambulisme paraissent deux degrés différents d'un même ordre de fait. Fin de la citation. Les physiologistes qualifient ces phénomènes de maladies, et ils leur donnent même, ouvrez les guillemets, le nom de folie lorsqu'au déplacement de l'action des organes se joignent des hallucinations des sens, des visions d'objets qui n'existent que pour le visionnaire. Fin de la citation. Selon lui, ouvrez les guillemets, les révélations de l'extase sont des phénomènes subjectifs, c'est-à-dire intérieurs, des révélations de l'âme à elle-même et non des communications objectives ou extérieures avec des créatures appartenant à un autre monde. Fin de la citation. Ouvrez les guillemets. Il y a eu, dit-il encore, un miracle dans l'apparition de Jeanne, et ce miracle, c'est Jeanne elle-même. Dans l'envoi de cet être extraordinaire, comme des rares envoyés de Dieu qui lui ont ressemblé, il y a quelque chose au-dessus des lois de la nature. Mais une fois cette créature exceptionnelle descendue parmi nous, elle a vécu soumise aux mêmes lois que nous, faillible, quoique douée de dons rares et admirables. Prêtant à la vérité essentielle de son inspiration, les formes conventionnelles des croyances de son temps, voyant, écoutant Dieu à travers les personnages symboliques de la légende et attribuant à des êtres extérieurs les révélations intimes de Dieu dans sa conscience, les immenses expansions de ses forces morales, suscitées par sa volonté suprême. Fin de la citation. En un mot, tous les faits merveilleux de la vie de Jeanne ont pour principe unique les puissances latentes de l'âme. Comme on le voit, ces diverses explications se distinguent chacune par des nuances qui leur sont propres, mais elles s'accordent en ces trois points. Deux points. Il n'y a pas eu dans la vie de Jeanne intervention extranaturelle de saint ou de sainte. Tout doit s'expliquer chez elle par la surexcitation naturelle ou maladive des puissances de l'âme. Enfin, ces apparitions furent des phénomènes purement subjectifs. L'opinion opposée, qui est la seule vraie, enseigne au contraire qu'il y a eu, dans la vie de Jeanne d'Arc, intervention extranaturelle des anges et des saints, et que ces apparitions ne furent point des relations imaginaires, mais bien des communications réelles avec des êtres distincts d'elle. L'histoire nous offre dans la vie du peuple de Dieu et dans celle des saints de l'Église catholique de nombreux exemples de relations entre le monde surnaturel des esprits et le monde humain. Cette question a donc été examinée et scrutée par les théologiens, longtemps avant que la médecine psychologique se décida à la mettre à l'étude. Ils ont distingué trois modes de révélation surnaturelle ou trois manières dont nous pouvons communiquer avec le monde divin. Dieu, disent-ils, a parlé quelquefois sans vision, sans figure, ni symbole, d'une manière purement intellectuelle, imprimant la vérité dans l'entendement du prophète. D'ordinaire, cependant, il se sert de visions intérieures ou extérieures pour communiquer avec l'homme. Parfois, en agissant sur les puissances imaginatives, il y produit des figures, des symboles, des voix qui annoncent l'avenir. Voilà ce qu'on appelle visions intérieures ou imaginaires. D'autres fois, ces anges ou ces saints revêtent des corps d'emprunt au moyen desquels ils communiquent avec l'homme, comme nous communiquons entre nous. Voilà ce qu'on appelle visions extérieures ou simplement visions, apparitions, et c'est ce que nous rencontrons dans la vie de Jeanne d'Arc. Je vais prouver cette assertion. Deux points. Il est dans la vie de Jeanne un fait qui, peut-être, n'a pas été assez remarqué. C'est que Jeanne affirme avoir vu, entendu et touché Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Michel. Jamais elle ne varie dans ses assertions. Elle les signe de son sang. Ce qu'elle croit fermement, ce n'est point seulement que ses voix ne la trompent pas, mais c'est qu'elle entend des voix. C'est que Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui apparaissent, qu'elle les voit, qu'elle les touche. Voilà l'objet de sa foi. Elle l'affirme au roi, à ses examinateurs de Chinon et de Poitiers, à ses juges qui veulent la faire convenir qu'elle a été « séduite », entre guillemets, que ce sont « inventions humaines », entre guillemets. Enfin, elle l'atteste sur le bûcher. À une affirmation si précise et si constante, qu'opposent les adversaires de Jeanne? De quel droit viennent-ils aujourd'hui affirmer qu'elle s'est trompée et qu'elle a souffert le tourment du feu pour une illusion? Ils n'ont d'autre fondement à leur négation que je ne sais quel système philosophique, excluant a priori tous les faits extra-naturels et à l'autorité duquel doivent céder tous les témoignages historiques. Il ne s'agit point ici d'un fait à expliquer, mais d'un fait à constater, le fait des relations de Jeanne avec Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Deux points. Jeanne l'atteste. Il reste donc uniquement à examiner la véracité de son témoignage. Peut-on, oui ou non, se fier à sa parole? Ces attestations ont-elles les caractères de la vérité? N'y a-t-il en elle rien qui décèle le mensonge ou l'illusion? Démontrer que Jeanne n'a point menti, je ne l'essayerai pas. Ce serait outrager sa mémoire. Voyons si ses paroles sont celles d'une visionnaire, d'une hallucinée, si ses dépositions sont vagues, indécises, comme ces formes qui naissent d'une imagination malade ou d'un cerveau exalté. Il n'en est rien. On retrouve dans ces récits cette précision qui suppose une âme maîtresse d'elle-même et consciente de ses actes. Jeanne voit, entend et touche des figures humaines. Elle remarque leur habillement. Deux d'entre elles, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, portent des couronnes. Saint-Michel ressemble à, entre guillemets, un très vrai prud'homme à l'habit. Elle sait le lieu et l'heure où ces figures humaines lui apparaissent. La première fois, c'est dans le jardin de son père, du côté de l'église, vers midi. Elle entend une voix et aperçoit une clarté. Elle est dans sa 14e année. Elle a d'abord peur. Puis elle se familiarise et s'habitue bientôt à converser avec ses apparitions. Ses voix lui annoncent des choses précises. Elle les saisit parfaitement, à moins qu'un bruit extérieur n'empêche toutes les paroles d'arriver à ses oreilles, comme dans sa prison, où le bruit des querelles de ses gardes l'empêchait d'entendre tout ce qui lui était dit. C'est elle-même qui s'en plaint à ses juges. Selon les occasions, ses voix la consolent, la blâment, et quand elle saute du donjon, elles la soutiennent et la préservent de la mort. Il n'y a donc rien de vague, rien de vaporeux dans les rapports de Jeanne avec ses apparitions. Rien, par conséquent, qui puisse faire assimiler ses visions aux images qu'enfante un cerveau dérangé. Un autre caractère qui écarte toute idée d'hallucination, c'est que ces fêtes durent chez Jeanne depuis l'âge de 14 ans jusqu'à la mort. Il se répète au milieu des circonstances les plus variées, à la campagne, dans la maison de son père, à la cour, sur le champ de bataille, en prison, le jour, la nuit, en maladie, en santé. Ainsi, le temps, les circonstances extérieures, les dispositions du corps, qui d'ordinaire exercent tant d'influence sur les maladies mentales, n'en exercent aucune sur les voies de Jeanne. Ces voies ne l'entretiennent pas seulement de quelques grands événements, mais aussi de mille petits détails. Elle lui annonce la défaite des Français à la journée des harengs, la mort prochaine du soldat qui l'insulte, la blessure qu'elle recevra au-dessus de la mamelle gauche, la délivrance du duc d'Orléans, etc. Et dans toutes leurs paroles, rien d'erroné. Entre guillemets, jamais, dit-elle, elle ne les a trouvées en deux paroles contraires. Fin de la citation. Rien de bizarre, rien d'absurde, rien d'inconvenant, mais au contraire, un grand bon sens, une convenance parfaite, une perspicacité rare. Si l'on reconnaît l'illusion à ses signes, comment la distinguer de la vérité? Mais encore, Jeanne fut peut-être une personne excentrique, exaltée. Son histoire nous montre tout le contraire. Elle est humble, ne s'attribuant rien, mais tout à Dieu. Elle est désintéressée, sage dans ses propos, d'une prudence consommée au milieu des circonstances difficiles où elle se trouve, ayant à ménager la susceptibilité jalouse du roi et de son conseil, ayant à garder sa vertu et sa réputation dans un lieu où elles étaient exposées à tous les périls. L'éclat de la cour, le bruit des batailles, les louanges que le peuple lui prodigue ne l'enivrent pas. Elle regrette que Dieu ne lui permette pas de retourner à ses brebis. Quel est l'homme dont la froide sagesse eût triomphé de tous ses dangers? Ses apparitions ne sont point aux ordres de Jeanne. Elle ne les a point quand elle veut. Mais quand il plaît à notre Seigneur, elle ne lui annonce pas des triomphes continuels et refuse souvent d'accéder à ses prières. Ainsi, c'est en vain qu'elle leur demande chaque jour l'heure et le lieu où elle sera prise, en vain qu'elle leur demande de mourir vite, sans grande souffrance, de prison. Est-ce encore là un signe d'hallucination? Qu'on ne dise point que Jeanne n'a pas réfléchi sur ses voies, qu'elle s'est laissée emporter par son imagination. Jeanne n'a pas cru de suite à l'origine surnaturelle de ses révélations. Elle-même nous dit que ce fut seulement après que l'ange, entre guillemets, lui eut tant enseigné et montré, qu'elle crut fermement que c'était-il. Fin de la citation. Au reste, elle eut depuis lors des occasions et de sérieuses occasions de réfléchir sur l'origine de ses voies. Elle dut subir à Chinon et à Poitiers deux examens portant précisément sur cette question. Au milieu des horreurs d'une longue prison, on mit sa foi si vive en l'Église aux prises avec sa foi en l'origine de ses voies. Des juges iniques cherchèrent à établir et voulurent lui faire reconnaître que ces révélations, entre guillemets, n'étaient point de par Dieu, mais fictions humainement inventées. Fin de la citation. Et il y allait du feu, dont cette pauvre jeune fille disait, deux points, entre guillemets, j'aimerais mieux être décapitée sept fois que d'être ainsi brûlée. Fin de la citation. Jeanne a donc réfléchi, et sérieusement, sur l'origine de ses voix. et sa foi n'était pas une foi aveugle. Fin de la première partie de 2 du chapitre 4 de l'étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jauger.